Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Laurent Jacquier, c'est lui qui a accepté de nous donner ses notes en ce 22 janvier 2026. Auditrice, auditeur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Bonjour Jean-Marc, merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute des auditeurs, mais aussi en soutien à l'animateur que je suis. Bonjour Laurent Jacquier.
Bonjour et merci de votre invitation.
Bonne année, parce que c'est encore l'occasion de le faire jusqu'à la fin du mois, et puis bonne année pour les auditrices et aux auditeurs, parce que c'est la première émission de l'année de la série « Donnez-nous vos notes ». Et donc, bonne année à tous, mes meilleurs voeux, à vous, comme à celles et ceux qui vous sont chers. Auditrices, auditeurs, je veux vous remercier encore une fois des nombreux témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes, et je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes données aujourd'hui, 22 janvier 2026, par Laurent Jacquier. Que dis-je donner? Offerte par Laurent Jacquier. Laurent, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC.
Merci à vous.
Auditrice, auditeur, Laurent Jacquier va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales, et le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical comme humain. Laurent va nous dire comment il vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur lui, à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Laurent va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres, celle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Laurent Jacquier, bonne année 2026, bonne musique 2026, Jean-Marc, bonne année, et puis continuons encore comme ça longtemps sur RDC. Laurent, vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Alors Laurent Jacquier, donnez-nous vos notes. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Laurent Jacquier, une question comme ça, toute go pour commencer. Qui êtes-vous?
Eh bien, je suis Laurent Jacquier, mais avant de me présenter, je voudrais juste souhaiter une bonne année à vous, toute l'équipe, et bien sûr à tous les auditeurs de RDC. Alors, je suis
merci.
Donc, de rien. Je suis donc musicien, essentiellement compositeur, orchestrateur et parfois aussi chef d'orchestre. Voilà, c'est l'essentiel de mon activité musicale.
Excusez du peu, alors tout ça, vous allez évidemment nous parler de ces différentes fonctions, tiens, je vais dire activité, tout au long de l'émission, mais on en a déjà entendu, donc musicien, orchestrateur, chef d'orchestre, instrumentiste peut-être aussi.
Oui, alors j'ai été instrumentiste, j'ai commencé par la guitare.
La guitare sèche ou...
Alors la guitare électrique plutôt, puisque j'ai commencé la musique essentiellement par le hard rock. Comme j'étais, le village où j'habitais quand j'étais enfant n'avait pas d'école de musique.
Ah, c'était où ce village?
C'était à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, entre Megève et Chamonix. Voilà. Donc on faisait plutôt du ski et du hockey sur glace là-bas que de la musique en conservatoire. Et j'ai donc monté un groupe de hard rock avec des copains du collège. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique.
Et avec l'instrument directement alors?
Oui, ça directement, l'instrument. Il y avait une MJC qui proposait des cours de guitare collectif. Et voilà, je me suis inscrit là-bas et j'ai commencé directement la guitare. Et on a fait une application directement avec des amis, on a monté un groupe de rock.
Qui s'appelait comment? Il y avait un nom ce groupe?
Alors,
Ah
oui. Je ne sais pas si j'ose le dire.
Oh.
Le nom, ça s'appelait Tsetse Fly. C'était le groupe qui endort son public. On était jeunes, hein, je m'excuse. On était très
15 ans, 15 ans, c'est
oui,
ça ?
Oui, même pas, 13-14.
Et alors, vous étiez guitariste, il y avait des copains qui jouaient de quoi ?
Oui, il y avait un chanteur, un deuxième guitariste et un batteur.
Donc à 4 ?
On était 4, et on n'avait pas de bassiste, on n'avait pas encore bien compris à quoi servait la basse. À cette,
et depuis,
à cette
ça a changé ? Depuis, ça a changé ?
Depuis, j'ai mieux compris. D'ailleurs, j'en joue maintenant.
Ah, ben voilà. Donc, au début, la guitare, et puis la guitare basse.
Voilà,
et peut-être d'autres instruments. On en reparlera. Et le hard rock, ça ne vous a jamais quitté ?
Bah, c'est toujours... Non, je suis toujours assez attaché à cette musique-là aussi.
Aussi, ça. Là, j'aime beaucoup le aussi, parce que ça veut dire que vous dépassez, je vais dire, les frontières des genres musicaux.
Oui, le plus possible.
Ouais.
Ce qui n'était pas mon cas, je le reconnais, à l'adolescence, où j'écoutais exclusivement du hard rock.
Ouais.
Bon, j'ai beaucoup changé depuis.
Mais vous êtes toujours jeune. La musique,
oui,
évidemment, permet d'être jeune éternellement. Alors, par où commencer ? Quel est le premier extrait que vous allez nous proposer ce matin, Laurent ?
Alors, le premier extrait que je vous propose, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Iron Maiden.
Mm-hmm.
Et la chanson s'appelle Right Child.
Est-ce qu'on serait dans l'univers du hard rock, là ?
Oui, là, on est tout à fait dans l'univers du hard rock. Cette chanson-là est issue d'un album qui s'appelle Killers, qui est sorti dans les années 80. C'est un des premiers albums que j'ai acheté, en vinyle à l'époque, évidemment.
Et avec les cachets de l'orchestre.
Voilà. Et je me souviens avoir acheté cet album à Londres, chez un disquaire, et j'ai eu beaucoup de mal à me faire comprendre, vu mon accent anglais, si vous avez entendu tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup évolué, et le disquaire comprenait absolument rien à ce que je lui demandais. Voilà, ça a pris un certain temps.
Donc vous l'avez parlé anglais, et il ne comprenait pas l'anglais, c'est ça ?
Voilà, il ne comprenait pas mon anglais, oui. Je crois, surtout.
Il fallait alors lui parler peut-être en français, allez savoir.
Donc après, je lui ai montré la pochette, et il a compris.
Alors cette chanson, ben, on va écouter un extrait, puis on en parle après, on dit ce que c'est.
Ok.
Allez, c'est maintenant, c'est donc le titre, c'est ?
C'est White Child.
Oh yeah, yes, very good. C'est maintenant. Le moins qu'on puisse dire, Laurent, c'est que ça déménage dès le début.
Oui,
c'est ça.
Hein, c'est ouais, l'objectif de
c'est du gros son, comme on dirait aujourd'hui.
Voilà.
C'est une chanson qui expose la frustration et la détermination d'une personne qui a une existence que je vais qualifier de peu agréable. Pour le moins, c'est quelqu'un qui est né dans un monde plein de colère et de cupidité, plein de domination et de persécution. Et c'est peut-être ça qui est illustré par ce gros son des guitares, finalement. Hein. Le passé de cette personne a été difficile avec l'absence d'un père et avec le sentiment de n'appartenir socialement à rien du tout, de ne se retrouver avec personne. Alors, la quête pour retrouver son père est incessante, et la quête pour retrouver une inscription dans un groupe est incessante aujourd'hui. C'est peut-être une métaphore, tiens, je vais dire, qui évoque une recherche d'identité et la volonté de résolution d'une tourmente intérieure. On a tous dans la vie des hauts et des bas, et là, je crois que le personnage dont il est question est vraiment dans un bas de sa vie, n'est-ce pas ? Il a vraiment une existence difficile à ce moment-là. La formule plusieurs fois chantée d'enfant de la colère, Right Child, c'est ça, hein ? Elle désigne une personne qui est finalement le produit de cette colère, mais est-ce que cette personne, elle a la colère en elle, ou est-ce que la colère c'est un héritage familial, social, que sais-je ? On n'a pas la réponse dans la chanson. Le rythme entraînant et le ton agressif traduisent la quête infatigable et agressive de celui qui chante pour trouver des réponses à ses questions, et peut-être parvenir ainsi à une certaine tranquillité d'esprit. La chanson parlera sans doute à quiconque s'est déjà senti perdu, j'avoue que ça a été mon cas quelquefois, ou a dû affronter son passé, ça a été mon cas aussi, pour trouver ou retrouver sa place. Le groupe Iron Maiden, connu pour sa narration complexe et ses compositions musicales puissantes, livre avec cette chanson un morceau qui s'avère à la fois un récit personnel et puis un commentaire sur la condition humaine. Laurent, fan de Iron Maiden ?
Mais oui.
À l'époque au moins, peut-être.
À l'époque, en tout cas, oui.
Et pourquoi ?
Et alors moi, ce qui me... Bon, vous avez compris, l'anglais, c'est... je ne suis pas non plus bilingue, donc je n'avais pas tout écouté des paroles. Mais par contre, ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté très épique. Il y a presque un côté musique de film. Et donc il y a toujours une espèce de côté grandiose. Il y a beaucoup, beaucoup de phrases. Alors, parce qu'après, il y a des tas de solos de guitare. Il y a beaucoup de passages très instrumentaux.
Les solos de guitare, c'est intéressant, ça, pour un guitariste, sûrement.
Oui.
Vous en avez joué ?
Évidemment. J'en ai joué... Alors, j'ai essayé de jouer plusieurs solos de guitare.
Essayez, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Allons.
Une prochaine fois, je viendrai vous les jouer.
Très bien, voilà. Vous avez entendu, auditrice, auditeur, ce qui est dit est promis. Donc, une voilà. Prochaine émission, on aura...
Mais laissez-moi travailler un petit peu.
Vous ne viendrez peut-être pas tout seul, allez savoir. Avec des copains ou des collègues pour, qui partagent la musique avec vous. On en reparlera dans l'émission. Un autre solo de guitare qui, je crois... vous plaît beaucoup, c'est celui qu'on trouve dans un morceau de Pink Floyd, c'est ça ?
Oui.
C'est quel morceau ?
Tout à fait. Alors le morceau s'appelle Comfortably Numbs, c'est un extrait de l'album The Wall. Donc The Wall, c'est un concept album bon, qui se faisait beaucoup à l'époque, donc qui raconte toute une histoire. Et dans cette chanson, qui est extrêmement connue, elle est extrêmement connue notamment pour son solo de guitare. Et enfin, moi j'aime beaucoup ce guitariste de Pink Floyd.
Alors comment il s'appelle ?
Qui s'appelle David Gilmour.
Uh-huh. Et c'était un des guitaristes ou le guitariste soliste de Pink Floyd,
oui,
c'est ça ?
C'est ça, c'est le guitariste soliste de Pink Floyd. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a un toucher, une manière de phraser la musique qui est absolument incroyable.
Ouais, alors phraser la musique, j'aime beaucoup l'expression, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Alors, c'est. On peut dire que c'est la manière de faire passer l'émotion tout en jouant. Et je trouve qu'il a une manière. Lui de partager ses émotions avec la guitare très particulière. Et ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, dans le solo que nous allons écouter ensuite, il utilise une seule gamme, toujours la même. Et pourtant, il arrive à faire des
alors
phrases.
Une gamme, c'est un agencement de notes, c'est ça ?
Alors ce qu'on appelle une gamme, effectivement, c'est une échelle de notes qui en principe vont couvre une octave, ouais. Donc, par exemple de do jusqu'à do, on peut mettre les notes qu'on veut. Lui, il utilise une échelle, il utilise que 5 notes en fait. Voilà. Dans son solo, grosso modo, il y a uniquement 5 notes.
C'est vrai, c'est une gamme pentatonique.
Ce qu'on appelle une gamme pentatonique. Et la manière, je trouve qu'il y a une manière très très particulière de faire sonner cette gamme, moi qui me touche beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce solo.
Donc il n'y a pas, on vient de découvrir ou de redécouvrir qu'une gamme, c'est pas forcément do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je prends un exemple, ça peut être do, mi, fa, sol.
Exactement.
C'est ça, on n'est pas obligé de jouer toutes ces notes pour une gamme.
Non.
D'accord.
On peut inventer les gammes qu'on veut.
On l'écoute ?
Eh bien, on l'écoute.
Quelle est cette gamme pentatonique qu'on va entendre maintenant ? Je crois qu'il faut une certaine virtuosité pour arriver à jouer ça, non ?
Eh bien, oui. Et surtout pour avoir un son pareil. S'il n'y a pas que la rapidité des notes et que la technique pour faire ça, c'est la manière de faire sonner l'instrument. Et pour y arriver de cette manière-là, il faut être sacrément virtuose, à mon avis.
Oui, parce que c'est pas la sono qui fait tout, quoi.
Hein ? Ben non. Ouais, non. Non, c'est pas parce qu'on branche
la
guitare. Voilà.
Le geste de l'instrumentiste, quoi.
Exactement.
Comment il se sert de l'instrument, comment peut-être il conçoit ce qu'il a à jouer. Moi, je fais le lien, peut-être, et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, Laurent, avec un acteur de théâtre qui a un texte à dire. C'est-à-dire comment il va le dire, pourquoi, comment il va faire passer l'émotion, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça. En fait, l'interprétation musicale, que ce soit en improvisation, sur un solo de guitare ou n'importe, C'est vraiment c'est la même chose, oui, que comment on va dire un texte de théâtre, comment on va dire un texte musical.
C'est l'interprétation, voilà, avec un I majuscule.
Exactement.
Qu'on soit tout seul ou qu'on soit en groupe, on est d'accord.
Hein. Oui, tout à fait.
Il y a un producteur de l'époque de Pink Floyd qui s'appelait, Bob Ezrin, qui dit « J'étais présent pour le premier solo, et dès que David Gilmour, celui qu'on vient d'entendre, hein, a mis la sangle de cette Stratocaster, c'est la marque de la guitare, hein, oui, sur ses épaules, il a pratiquement livré ce solo exact dès la première prise, dès la première fois. » Alors, il veut sûrement dire que David Gilmour avait besoin d'être un peu préparé, je vais dire, en tout cas au moment de l'enregistrement, il avait déjà tout emmagasiné, tout prévu, comment il allait jouer, ou alors il découvrait, je ne sais pas.
Ça, on ne peut pas savoir, peut-être qu'il a juste improvisé. Je crois qu'ils avaient beaucoup l'habitude d'improviser sur scène, de toute façon Pink Floyd, donc ça arrive hein, comme ça des fois d'avoir...
Ça veut dire que la musique n'est pas toujours écrite, c'est ça que vous me dites?
Exactement. Je pense que là, la musique était pas... Enfin, la chanson devait être écrite, mais pas, en tout cas, pas le solo final, et qu'il a dû improviser en studio.
C'est repris dans d'autres formes de musique, ça, je crois, quand on dit que le pianiste, par exemple, fait une cadence. C'est une forme d'improvisation, finalement, même dans la musique dite classique, hein, Vivaldi ou autre.
Exactement.
Ouais, donc, c'est pas une découverte d'il y a quelques dizaines d'années, ça existe depuis la nuit des temps, finalement.
À l'improvisation, oui, ça existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Beethoven ou Mozart étaient reconnus comme de très grands improvisateurs. Chopin, Mendelssohn aussi, enfin des tas de compositeurs étaient aussi de très très grands improvisateurs sur leurs instruments.
Alors ce même producteur, voilà ce qu'il ajoute, hein, c'est Bob Ezrin, donc il dit « Quand j'ai entendu ça, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était majestueux, mélodiquement parfait, et cela servait l'histoire de la chanson, de manière bien plus puissante que n'importe quel arrangement orchestral. » Alors Laurent, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez musicien, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit là? Un musicien tout seul, c'est aussi puissant, je vais dire, qu'un arrangement orchestral, ça peut?
Ah ben, bien sûr.
Donc l'orchestrateur ou l'arrangeur, il sert à rien alors? Je taquine un peu là.
Ça sert à rien. Non, de toute façon, derrière le solo, il y a quand même tout un arrangement instrumental. Avec les parties de synthé, il y a vraiment une grosse recherche de son et de timbre chez Pink Floyd. Mais effectivement, dans ce passage précis, ce qui est en avant, c'est vraiment le solo de guitare. C'est comme si on a un air à l'opéra. Ce qui va être devant, c'est la chanteuse ou le chanteur. Et l'arrangement musical des instruments sera en retrait.
Et qui viendront quand même peut-être mettre en valeur.
Mais
ce
voilà,
solo.
Et ça, en fait, l'arrangement, c'est vraiment l'écrin pour aller mettre en valeur le solo.
Ah, j'aime beaucoup le terme, l'écrin, bravo.
Du coup, s'il est mal fait, on met mal en valeur. Ah,
ouais. David Gilmour, il a revendiqué, certes, une virtuosité, on ne peut pas la nier, mais il a toujours, je vais dire, privilégié la sensibilité, finalement, pour interpréter. Et je crois que c'est important, la sensibilité. Comment est-ce qu'on ressent la musique et comment on va essayer de la faire passer pour que d'autres la ressentent? C'est aussi ça, le rôle du musicien, non?
Oui, tout à fait.
Et dans une interview, voilà ce qu'il a affirmé, ce guitariste, David Gilmour, donc, « Je n'ai jamais été rapide, mais cela a défini mon style de jeu. » Alors il faut relativiser, parce que dans ce qu'on vient d'entendre, il y a quand même un petit peu de virtuosité. Mais il parle de guitariste, de son niveau et de son talent, bien sûr.
Oui.
Et en musique, qu'on soit chanteur, instrumentiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre ou chef de chœur, faut-il, à votre avis, Laurent, donner plutôt de l'importance à la mélodie, à la sensibilité, à la virtuosité? Alors vous pouvez me dire à tout, c'est vrai. On est d'accord, mais est-ce qu'il y a, pour vous en tout cas, quelque chose qui se dégage? La mélodie, la sensibilité, la virtuosité, l'arrangement, que sais-je encore? Est-ce qu'il y a des réponses possibles ou pas? Ou c'est au cas par cas?
Il y a des réponses possibles, mais en règle générale, je pense que tout est important, mais c'est une question de dosage. C'est-à-dire que si on met tout sur le même plan et tout aussi important, ça devient quand même quelque chose d'assez indigeste.
Dosage et équilibre?
Voilà. À mon avis, le point essentiel dans la musique, c'est l'équilibre. Mais au niveau de la virtuosité, à mon avis, la virtuosité, ça sert à une seule chose, c'est-à-dire à servir l'émotion et la musique. Et c'est exactement, par exemple, ce que fait David Gilmour, parce que c'est pas, techniquement parlant, c'est pas si difficile, le solo. Mais par contre, le jouer de cette manière-là,
voilà. Et ça, c'est deux choses. Hein. Et c'est valable pour plein d'interprétations.
Oui, bien sûr.
C'est une chose à interpréter, bien sûr. Il y a un auditeur qui a dit, en écoutant ce solo la première fois, « J'ai des frissons dans le dos. » Et il ajoute, à chaque fois que je l'entends, j'ai à nouveau des frissons dans le dos. C'est peut-être votre cas, non ?
Oui, exactement.
Et aujourd'hui, on dirait peut-être...
Je ne m'en lasse pas. Et pourtant, ouais. Je l'ai écouté souvent.
Ouais. Aujourd'hui, on dirait peut-être avec les mots actuels, hein, les mots à la mode, j'ai les poils.
Voilà, c'est exactement ça.
Un autre auditeur, lui, dit, ce solo est dingue. Vous êtes d'accord ?
Ah ben oui.
Ouais, et dingue pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer. On continue ? On passe à... quelque chose qu'ils appellent Jigsaw, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous allez nous en parler. Jigsaw, c'est ça ?
Oui, c'est
alors,
ça.
Qu'est-ce
alors,
qu'est-ce que c'est ?
Honnêtement, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Mm-hmm.
Jig, c'est une danse. Hein. La jig.
Mais c'est, enfin, c'est une chanson, enfin, c'est un titre d'un album d'un guitariste plutôt jazz, jazz fusion, jazz rock, que j'aime beaucoup. Guitariste s'appelle Mike Stern, qui a joué, ça a été le guitariste de Miles Davis aussi pendant un moment, ce qui est quand même une assez bonne référence.
Je crois.
Et il a fait plusieurs albums solo avec des compositions à lui. Et donc voilà, c'est une de ces compositions que je vous propose d'écouter. Parce que j'ai eu une période aussi où j'ai énormément écouté de jazz, de tous les styles, hein, du bebop jusqu'au.
Donc c'était après le hard rock, ça ?
Oui, mais je continue. Enfin, j'ai écouté tout en même temps.
Ah.
Mais à cette période-là où j'écoutais beaucoup de jazz, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient du jazz, je traînais pas mal au club de jazz. J'étais à Grenoble à l'époque où il y avait un club de jazz.
Ah, hein,
qui s'appelait La Soupe aux Choux. Je crois que ça n'existe plus, mais voilà. Donc j'allais souvent là-bas ou dans des cabarets où on jouait du jazz.
Et alors vous êtes intéressé au jazz, vous dites, c'est plus le cas aujourd'hui ou c'est moins le cas ?
Si, c'est le... En fait... Je remarque que plus ça va et moins j'écoute de musique.
Ah !
Parce que, d'abord je crois que j'ai plus le temps parce que je travaille beaucoup. Et en fait j'en fais toute la journée de la musique. Donc je crois que j'ai même pas un truc qui marche à la maison où je peux écouter de la musique.
Ouais, mais alors moi je vais oser poser la question comme ça. Et dans votre tête, vous en écoutez souvent de la musique ?
Ah oui, par contre on continue. Donc c'est pour ça. J'ai pas forcément besoin... d'en remettre en plus parce
donc
que
vous avez un appareil voilà. Éternel quoi, qui oui. Fonctionne 24/24.
Oui, j'ai un peu de mal à le couper celui-là. Ah.
Mais quand on dit, vous avez dit, je me suis intéressé au hard rock, au jazz, est-ce qu'on peut dire, et vous avez découvert plein de choses, est-ce que les goûts musicaux peuvent évoluer, changer, et pourquoi ?
Oui, ils peuvent évoluer. Enfin, pourquoi, je ne sais pas, déjà, il faut... Peut-être qu'il faut avoir l'occasion d'écouter certaines choses. Moi, quand j'étais ado, j'écoutais pas de musique classique parce que dans ma famille, personne n'était vraiment musicien déjà. Et puis parce que j'ai toujours eu l'impression que ça ne s'adressait pas à moi. Donc, voilà. Mais c'est d'un préjugé bête.
C'est une
bête,
formule
hein.
Très très forte, je pense, que vous venez de dire là. Ça, c'était pas pour moi, en fait, c'est ça
que
vous
moi, c'est en fait, c'est l'impression que j'avais. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein,
Culturel ? Est-ce que c'est familial ?
Voilà,
est-ce que j'en sais rien ? En tout cas, la musique, vous le disiez tout à l'heure, et je vais oser le redire, pour moi, pour nous, Laurent sûrement, n'a pas de frontières et elle est pour tout le monde, on est d'accord ?
Je suis entièrement d'accord.
Quel que soit le type, le style, le genre, l'époque, que sais-je, le pays d'origine, la civilisation.
Ah oui, tout à fait, ça, je suis entièrement d'accord.
Ce qui permet de passer, par exemple, de Mike Stern à d'autres interprètes qu'on va avoir après, mais peut-être qu'on peut écouter ce Jigsaw, non ?
Oui, tout à fait.
C'est maintenant ? Allez, voici donc Mike Stern.
Encore
un guitariste ?
Encore un guitariste.
Voilà, un guitariste qui s'appelle Laurent Jacquier, qui nous parle de d'autres guitaristes. Ce Mike Stern, donc, il nous fait Jigsaw. Que c'est toujours la guitare, mais que c'est pas la même guitare finalement.
Oui, parce que c'est pas le même style.
Ah.
C'est pas le même style de jeu, c'est pas le même style de son, et puis c'est pas du tout le même style de musique. Donc les placements rythmiques, etc., sont très différents.
Donc il y a on dit qu'on joue de la guitare, en fait, on pourrait dire qu'on joue des guitares, parce que selon la guitare, selon le style, selon le réglage, que sais-je encore, c'est ça.
Il y a plusieurs modèles de guitare, parce qu'il y a des guitares acoustiques. Par exemple, la guitare classique, qui elle a des cordes en nylon et qui ne se branchent pas, en règle générale. Et après, vous avez tout ce qui est guitare électrique, ou les guitares folk qui ont des cordes métalliques, donc qui ne sont pas faites, faites pour jouer le même type de musique. Voilà.
Donc un guitariste, théoriquement, il a plusieurs guitares.
Oui, théoriquement.
Donc chez vous, il y a plusieurs guitares.
Oui, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, deux ou trois.
Ouais, alors c'est quoi? C'est les cordes qui changent? C'est les matériaux, les dimensions, que sais-je encore?
Alors les dimensions, non. Mais par contre, oui, les cordes changent, les matériaux, le bois change. Sur les guitares électriques, le type de micro peut changer. Donc en fonction des différents types de micros, on n'aura pas le même son. Il y aura des guitares qui seront faites jouer plus du blues ou du jazz.
Donc il y a vraiment tout un rituel là, de réglage auquel il faut penser, oui, en plus de l'instrument, pour avoir essayé d'obtenir tel son ou tel autre son.
Oui, tout à fait. Il y a aussi même un travail un peu technique, du coup pas sur l'instrument, mais technique sur le matériel pour régler un son correctement, avec différents effets.
Vous allez nous parler maintenant d'un chanteur-guitariste qui s'accompagnait à la guitare sèche.
Exactement.
C'est le grand Georges, c'est Georges Brassens. Quelle est la chanson de Georges Brassens que vous avez retenue et qui compte dans votre parcours musical? On est d'accord?
Oui, tout à fait.
On aurait pu sûrement en citer plusieurs, mais il en fallait qu'une. Alors?
Oui, ça va évidemment. Choisir une seule chanson de Brassens, bon, c'était pas forcément facile. Mais c'est vrai que Georges Brassens, c'est un compositeur, un auteur... compositeur et chanteur qu'on a beaucoup écouté dans la famille. Mon grand-père était un grand fan de Georges Brassens, donc j'ai été bercé mon enfance, pas tellement avec la musique classique, mais par contre avec Georges Brassens. Et la chanson que j'ai choisie, donc, c'est la ballade des gens qui sont nés quelque part.
Et vous, vous êtes né à...
Et moi, je suis né à Grenoble.
Donc, on parlait de Saint-Gervais tout à l'heure.
On n'est pas très loin. Je suis plutôt originaire du sud-est.
Ouais. C'est la troisième chanson d'un album. L'album s'appelle Fernande, quand j'y pense, de Georges Brassens. Le texte décrit et critique aussi les chauvins et leur xénophobie sur un air enjoué. Et ça rend cette chanson assez comique, finalement. Les paroles sont de Jean-Yann. Ça a été une grande surprise de découvrir ça pour moi. Et la musique de Michel Magne. La chanson a été reprise par un groupe qui s'appelle Tarmac, avec le choix de ce que j'appellerais une dramatisation du texte. Laurent, une reprise, puisque Tarmac a repris une chanson de Brassens. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a envie de reprendre quelque chose? Reprendre une chanson de Brassens, ou de qui vous voudrez? C'est parce qu'on l'aime, ou c'est qu'on sait qu'on va en faire quelque chose, ou c'est quoi?
A priori, c'est parce qu'on l'aime. En tout cas, moi, quand je fais une reprise de quelque chose...
Ça vous arrive alors?
Oui, ça m'arrive. C'est en priorité parce que c'est une chanson qui me parle et que j'aime. Et la deuxième chose, après, c'est pour en faire une réinterprétation, on peut dire.
Oui, c'est pas imité, quoi. C'est pas pour imiter.
Non, c'est pour moi, c'est pas du tout l'intérêt de réimiter.
S'approprier quelque chose, voilà, faire son miel, tiens, je vais dire.
Exactement. C'est plus s'approprier la chanson et en donner sa propre interprétation. On peut changer les rythmes, les tempos, les couleurs, tout ce qu'on veut.
Auditrice, auditeur, on est tous nés quelque part. Et voilà ce que Brassens en dit, ou plutôt en chante.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur...
On change vraiment d'univers musical avec les choix que vous nous proposez ce matin, Laurent, et moi je vous en remercie vraiment. Encore une fois, on a une ouverture tout à fait intéressante, une couleur musicale qui est très différente, même si... pour l'instant, en tout cas, le trait commun, c'est la guitare.
Pour l'instant,
c'est
oui.
Un guitariste que j'ai en face de moi. Allez, on passe à un autre chanteur, que je vais dire issu du monde de la variété, et c'est pas du tout péjoratif. Il s'appelle Renaud. Et alors, vous nous proposez quelque chose de Renaud, qu'est-ce que c'est?
Alors, la chanson s'appelle « J'ai raté téléfoot ».
Ah, voilà. Mais c'est pas l'heure, c'est pas l'heure.
Non, quand même. non, c'est pas l'heure. C'est voilà, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui regarde la télé un samedi soir. Et c'est un peu une critique de.
Ah, une critique de quoi? Du français moyen?
Du beau? Non, une critique du bourrage de crâne par les médias. Ou la télé.
Ouais, je crois qu'avec cette chanson-là, il décrit, Renaud, il décrit ce qui est coutume d'appeler le français moyen, quoi. Ouais. Et il enchaîne les bières devant la télé. Hein,
voilà, en gros, c'est un peu ça.
C'est lui qui zappe dans l'impatience du début de Téléfoot, qui est la seule émission qui, pour lui en tout cas, vaille la peine. Peut-être qu'au-delà, Renaud, il veut dresser un portrait de la télévision française en faisant une critique plutôt acerbe. Il dénonce ce qu'il considère comme la faible qualité intellectuelle de certaines chaînes. Et donc, il pense que ça va agir sur le spectateur, peut-être en allant jusqu'à l'abrutir un peu. À la manière d'un La Fontaine, Renaud se risque à l'exercice d'une moralité pour conclure, hein, comme La Fontaine le faisait pour ses fables. La moralité de cette chanson, elle est super. Ah ouais, je veux. C'est que la télé, c'est très dangereux. Et le football aussi, un peu. Dites, Laurent, faut qu'on se dépêche, parce que sinon, on va rater Téléfoot.
La vieille douce bière que je m'enfilais, faut dire qu'on était samedi soir. J'étais tranquillement écroulé devant ma télé sur mon plumard. Il y avait Jean-Pierre El Cavada qui me racontait l'Afghanistan et la Pologne et le Liban. Et Salvador, tu connais pas l'information pour ces mecs-là. C'est l'effrayé, le prolon, le bourgeois à coups de charrues d'Ayatollah. Demain, faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, eh ben ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. La magonzesse campe dans la piole, qui me dit qu'est-ce que tu fais planquer là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rage. Je lui réponds, j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot.
On est un peu dans le hard rock là, non?
Oui, c'est pas si loin, et il y a encore de la guitare d'ailleurs.
Il y a encore de la guitare. Je reprends la moralité, la fin. La télé c'est très dangereux, le football aussi un peu. Laurent, et la musique c'est dangereux ou ça peut l'être? À votre avis en tout cas. Peut-être selon l'usage qu'on en fait.
Alors peut-être selon l'usage qu'on en fait, mais enfin c'est comme tout.
Ouais.
N'importe quoi. Mais bonjour selon l'usage qu'on en fait. Mais non, la musique, je pense que c'est plutôt l'inverse.
Mais ben
c'est
oui.
Plutôt
la musique adoucit les mœurs.
Voilà, la musique adoucit les mœurs.
Parce que c'est toujours vrai. Bon. En tout cas, c'est ce qui se dit, n'est-ce pas?
Oui. En tout cas, notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que ça le soit.
Laurent, qu'est-ce que c'est que... Alors certains vont dire la cancoyote, d'autres la cancoyote, mais qu'est-ce que c'est la cancoyote ou la cancoyote?
Alors la cancoyote, c'est une spécialité fromagère, je crois, du Doubs.
De la Franche-Comté.
De la Franche-Comté, exactement.
Oui, Doubs, et puis les...
Il ne faut pas que je me trompe, de la Franche-Comté.
Et puis les départements autour, ouais.
Et alors je suis assez peu connaisseur, parce que j'ai goûté une fois et... J'aime pas du tout, personnellement.
Mais bon, il en faut pour tous les goûts.
Oui, voilà.
Et donc pour tous les non-goûts.
Mais par contre, j'ai choisi de parler de la cancoyote, pas spécialement pour son goût, mais pour une chanson.
Ah, laquelle?
Qui a été écrite par le chanteur Hubert Félix Thiéfaine.
Et la chanson s'appelle?
Et la chanson s'appelle La cancoyote, justement.
Quel meilleur titre trouvé, n'est-ce
voilà.
pas?
Et c'est une chanson vraiment très, très, très humoristique. Mm-hmm. Et... C'est assez intéressant parce que cette chanson-là n'est pas du tout dans l'univers habituel de TFN, qui est plutôt quelqu'un, enfin un chanteur que j'aime vraiment beaucoup, très, très poétique, mais c'est assez sombre quand même la plupart du temps. Et là, c'est très très humoristique. Voilà, il a fait une chanson sur la spécialité de la Franche-Comté, sur la cancoyote.
C'est un hommage, moi je vais dire, léger et fantaisiste à un incontournable traditionnel de la région franc-comtoise, parce que c'est comme ça qu'on peut qualifier la cancoyote ou la cancoyote. La chanson célèbre l'unicité et l'importance de ce fromage, le fromage franc-comtois. C'est une chanson qui est faite de jeux de mots, d'images ludiques, il y a un humour constant, des images peut-être parfois un peu coquines, qui mettent en valeur l'attrait et la fierté de Thiéfaine associés à ses origines, qui sont des origines franc-comtoises, évidemment. C'est pas très loin de... C'est au-dessus de Grenoble, hein, c'est ça, la Franche-Comté?
Oui.
On a l'Ain, puis après on arrive en Franche-Comté.
C'est pas si loin que ça, faut remonter vers le nord.
Ouais. La chanson, elle célèbre le mélange et le brassage des ingrédients, et elle souligne l'importance d'une technique appropriée pour obtenir le résultat souhaité, parce que, mon bon monsieur, la cancoyote, pour la réussir, c'est quelque chose. Il ne faut pas rater la recette. La chanson suggère que la cancoyote n'est pas seulement un plat, mais une forme d'art qui nécessite une attention aux détails. C'est pas une jolie formule, ça?
Oh,
allez, on goûte.
On goûte,
allons-y. On goûte la cancoyote ou la cancoyote. C'est maintenant.
Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains Servan-Schreiber. Les Alsaciennes font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit caca, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancoyote se peint, mais ben flanc ouais, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancoyote, ce n'est pas pour ses François, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni ma fouet. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon, avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Il faut touiller, ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyote c'est tout un art, il faut rien laisser au hasard. Et la cancoyote c'est un mets ben franc-comtois.
Comme dirait ou chanterait un de mes amis, Dédé de Haute-Saône, avec la chorale Vox Romana qu'il dirige à Mézières, c'est la cancoyote, le mets de notre pays. Son odeur vous ravigote, son aspect regaillardi, ça vous colle les quenottes. Chaque comtois vous dira, rien au monde ne décollera la cancoyote. C'est une autre chanson sur la cancoyote, plus traditionnelle, plus ancienne que celle que vous nous avez fait écouter, mais je crois que ces deux chansons, c'est comme deux hymnes à la cancoyote finalement, c'est ça ?
Ben c'est ça, oui. C'est sympa pour un fromage d'avoir déjà deux hymnes,
ah ouais,
ce qui est assez
rare. C'est le côté aussi faire sérieux sans se prendre au sérieux.
Voilà.
Et c'est ce qui prévaut et c'est ce qu'il faut percevoir. Fier de ce que l'on est, fier de là d'où on vient, sans oublier ses origines, sans les renier. Ça aussi, c'est chouette, non ?
Oui.
Il y a des chansons traditionnelles de là où vous venez, vous ?
Sûrement. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste.
Étoile des Neiges, ne serait-ce que celle-ci.
Oui, Étoile des Neiges, exactement.
Et puis finalement, avec Thieffen, mais avec mon copain Dédé de Haute-Saône, de Mézières, être le premier à se moquer de soi-même, ça c'est bien aussi, non ?
Oui, l'autodérision, ça ne fait pas de mal non plus.
Un visiteur régulier de la Franche-Comté nous a écrit, après avoir écouté ces deux chansons-là, et voilà ce qu'il a noté. La cancoyote, j'en réclame chaque fois au resto, une cancoyote avec de l'ail, s'il vous plaît. Alors la cancoyote, pour vous, c'est ni à l'ail ni nature, Laurent, mais allez, je vais oser vous le dire, goûtez à nouveau, vous allez voir.
Bon, j'essayerai peut-être.
À mon avis, c'est comme les solos de Gilmour, on prend tous les solos, donc on prend toutes les cancoyotes, nature et à l'ail, sans aucun problème. On continue, Laurent ?
On continue.
On continue. Donnez-nous vos notes, c'est sur RRRDDDCCCC. Alors, Laurent, grâce à vous, j'ai appris un mot, et ce mot, c'est Zerolex. The Rolex, c'est peut-être un jeu de mots sur la montre de Rolex, allez savoir. Ça peut être ça ?
Alors, ça peut être ça. Ça peut être un jeu de mots avec zéro et les montres Rolex, voilà. Mais pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien. Pourtant, c'est... Alors, Zerolex, en fait, c'est un groupe, un trio de musique électronique qui est originaire de Besançon.
Et il y a de la guitare dans ce qu'ils font ?
Et il n'y a pas de guitare.
Oh.
Dedans, il y a du saxophone, une contrebasse et des machines. Et c'est un groupe qui est pas mal influencé aussi par le jazz, avec qui j'ai travaillé. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à leur demander pourquoi ils s'appelaient Zerolex.
Il n'est peut-être pas trop tard. On lance l'appel aujourd'hui, c'est RDC, 22 janvier 2026, c'est ça ?
Je pourrais leur envoyer un message pour savoir.
Donc les Zerolex, si vous nous entendez, pourquoi vous vous appelez les Zerolex ? C'est ça, là ?
Voilà, on peut se poser la question.
En tout cas, vous dites qu'il y a des instruments, et ils sont transformés, c'est ça ? Le son est transformé, adapté, comment ça se passe ?
Alors, il y a ce qu'on appelle des machines. Alors moi, je ne suis pas très spécialiste dans la musique électronique, mais c'est avec des sons de synthé qui sont traités, qui sont travaillés sur des machines. Et ce qui est intéressant dans ce trio-là, c'est qu'ils font en même temps, il y a des sons très travaillés avec des machines et des instruments acoustiques, donc comme le saxophone et la contrebasse.
Oui, c'est... Peut-être que vous serez d'accord, Laurent, je crois qu'on va entendre quelque chose qui est un peu d'un domaine onirique, organique en même temps, on a tout ça mélangé, c'est une composition très personnelle, et qui reflète un univers particulier, l'univers du producteur et de ceux qui font la musique, bien sûr. Et il faut compter, entendre des textures aussi diverses, voilà, que les inspirations, yes. C'est ça ?
C'est ça, et juste par rapport à ce morceau, en fait, moi j'ai travaillé avec eux en tant qu'arrangeur, et l'objectif de ce projet-là qu'on va écouter, c'était justement aussi la rencontre entre des musiciens qui font plutôt de la musique, ce qu'on appelle les musiques actuelles amplifiées, de la musique électronique, et des musiciens, entre guillemets, dits classiques, qui sortaient de l'École supérieure de musique de Dijon.
Ça veut dire qu'ils ont fait des études, entre guillemets, pardon du terme, des vraies études musicales, mais je voudrais bien...
Des études au conservatoire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, et c'était très intéressant de regrouper ces deux univers-là.
Ouais.
Donc, moi, sur ce projet-là, j'ai fait les arrangements pour les musiciens
classiques. Alors, les arrangements,
classiques.
Qu'est-ce que c'est qu'un arrangement ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la chanson qu'on va écouter. C'est-à-dire que moi, ils m'ont envoyé leur chanson à l'origine, donc qui était juste avec contrebasse, saxophone, des machines.
Oui.
Et par-dessus, moi j'ai créé d'autres parties, enfin en respectant leur univers bien évidemment, et sans toucher ce qu'ils ont fait, mais j'ai créé d'autres parties pour, dedans il y a un quatuor à cordes, un vibraphone et deux chanteuses.
Donc c'est complété quelque part ? Dans ce cas-là,
ça peut être complété, ou c'est une... Oui, on parlait d'interprétation tout à l'heure, ça peut être aussi, je pense que l'arrangement ou l'orchestration, c'est aussi une interprétation... De leur œuvre.
Donc donner une direction particulière.
Voilà, c'est mon interprétation de leur œuvre que j'ai rajoutée par-dessus. Donc on croise les différentes esthétiques.
Et pour y arriver, il faut discuter avec eux, il faut qu'ils soient d'accord, ou tant pis, c'est chacun son boulot après ?
Ah non, c'est une collaboration.
Ah.
Non, on était vraiment en très étroite collaboration. On se téléphonait pour savoir ce qu'ils voulaient. Moi, je proposais des choses. Après, ils me disaient, non, ben, ce serait mieux dans ce sens-là. Non, c'est vraiment un travail... Un travail d'aller-retour, et c'est un vrai travail de collaboration. Non, je ne travaille pas tout seul dans mon coin en disant, ben, maintenant débrouillez-vous.
Les musiciens sont aussi des partageux, alors.
Oui, une des choses très importantes dans la musique, c'est aussi le partage.
Ok, le titre, c'est Family Tree, c'est
Family Tree.
Alors, Family Tree, comment dirais-je, c'est à base de sample, si je prends le mot français. C'est un exemple de l'affiliation musicale du producteur, hein, pour utiliser, je le disais tout à l'heure, différentes allures. Aventurier, c'est un aventurier du sample ou du sample. Qu'est-ce que c'est, sampler ?
Alors, sampler, enfin, en français, ça s'appelle l'échantillon. Donc, c'est... On prend ça peut être n'importe quoi, on peut aller sampler dans la rue, le bruit de voiture, ou prendre des petits bouts de chansons ou de musique, n'importe lesquels. Et ensuite, on peut les retravailler comme un son brut, qu'on peut mettre différents effets dessus, on peut les intégrer à d'autres chansons.
On peut changer la hauteur.
Voilà, on peut changer les hauteurs, on peut. Voilà, ça peut s'approcher de techniques de collage, mais musicales.
Ouais, c'est intéressant tous ces liens entre différents arts, le collage pour tout ce qui est attrait à l'art pictural, par exemple.
Voilà,
On écoute. Allez, Family Tree, on monte à l'arbre, c'est maintenant. L'arbre de famille. Laurent, donc on peut être guitariste, à l'origine en tout cas, apprécier toutes les musiques, ou je vais dire presque, il y a peut-être encore celles que vous allez continuer à découvrir, parce que est-ce qu'un jour on peut dire qu'on connaît toute la musique ? Je ne suis pas sûr.
Je suis sûr que non, même.
Dans les différents styles de musique, il y a l'opéra, évidemment.
Oui.
Alors on va passer maintenant de l'univers guitariste, trad avec la concoyote, la musique électronique, nous voilà à l'opéra. Et avec quel opéra et quel extrait et pourquoi, dites-nous.
Alors, on va écouter un extrait d'un opéra de Mozart qui s'appelle Les Noces de Figaro, opéra très, très célèbre. Mm-hmm. Et l'extrait que j'ai choisi n'est pas forcément le plus connu, mais c'est un air de Barbarina.
Alors, un air, ça veut dire que c'est Barbarina, là, une des chanteuses qui va chanter toute seule, hein,
oui,
c'est ça
voilà.
C'est un solo, quoi.
Oui, là, voilà, c'est un solo.
Avec orchestre, peut-être.
Avec orchestre, tout à fait. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cet air pour différentes raisons, mais notamment parce que... au moment de l'opéra, Barbarina a perdu une épingle qui contient un message bon, qui est très important pour un rendez-vous. Et en fait, les paroles.
Un rendez-vous galant,
oui, tout à fait. Comme souvent à l'opéra.
Ah, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, mais je l'aime l'autre voilà. Et toi aimes moi. Enfin, c'est ça l'opéra en gros.
Oui, l'opéra, moi j'ai toujours en tête un de mes professeurs de conservatoire qui disait l'opéra c'est très simple, c'est un ténor et une soprano qui sont amoureux et une basse qui essaye de les empêcher.
Voilà. Voilà.
Moi, j'ai toujours trouvé ça.
Il y en a un des trois qui meurt à la fin. Souvent.
Souvent. mais dans Les Noces de Figaro, non. Au contraire, ça finit très bien.
Ah.
Et donc cet air-là de Barbarina, voilà, juste les paroles, c'est qu'elle a perdu, cette épingle, donc elle dit juste, je l'ai perdue, mon Dieu, mais je l'ai perdue.
Je l'ai perdue, pauvre de moi. Ah, ouais. Qui sait où, je ne la trouve pas. Et mon cousin et le maître, que vont-ils dire? Parce que si cette épingle est perdue, elle contenait un message ou elle était symbole d'un message. Alors rien ne se passera comme prévu, c'est ça?
C'est ça.
C'est une cavatine, je crois. Qu'est-ce
exactement.
Que c'est qu'une cavatine? Une cavatine, au départ, c'est un air pour voix en deux parties, donc c'est relativement court au total, oui. Hein, ce qu'on va entendre. Mais s'il y a une chose au moins avec laquelle je suis d'accord avec vous, Laurent, c'est qu'est-ce que c'est beau.
Oui.
On écoute ?
On écoute.
Donc c'est l'O perduta, ça veut dire je l'ai perdu, extrait des noces de Figaro de Mozart. C'est maintenant. Laurent, si je vous dis comme ça qu'au plein de vue musical, Mozart était un génie, vous êtes d'accord?
Ah ben, bien sûr que oui.
Hein, est-ce que même on va plus loin, on écoute une seule pièce isolée, celle-ci par exemple, déjà il y a tout le génie de Mozart là-dedans, non?
Ben je trouve qu'il y a tout... Enfin, Mozart, ça, enfin, pour moi, c'est quelque part pratiquement la perfection musicale. Je me rappelle toujours d'un film qui est sorti sur Mozart, je ne sais plus, dans les années 80, je crois que ça s'appelle Amadeus. Et il y a une scène où il dit que dans sa musique, il y a exactement le nombre de notes qu'il faut, il n'y en a pas. Enlever une note, ce serait tout faire tomber. Et je suis vraiment très d'accord avec ça.
C'est vraiment
il n'y a pas une note. Enfin, moi, je trouve c'est peut-être le seul compositeur où j'ai l'impression qu'on ne peut rien enlever, rien rajouter.
Et la musique, le silence qui précède Mozart, c'est déjà du Mozart.
Voilà.
Le silence qui suit Mozart est encore du Mozart.
Tout à fait.
Et avec cette cavatine, on a encore un exemple parfait, je trouve. Il y a d'autres cavatines très connues. Hein. On peut parler de Casta Diva dans Norma. On peut parler de Salut, demeure chaste et pure dans Faust de Gounod. Ou Novace Pokefa dans Le Barbier de Séville de Rossini. Mais je crois que celle-ci a été une des plus belles. Je n'ose pas dire la plus belle. Et elle a été souvent reprise en dehors de l'opéra dont elle est extraite, et on peut notamment les entendre dans deux films, au moins, Chaos et Les Témoins. Comme ça, Mozart, c'est, enfin la cavatine, c'est dans l'opéra, mais c'est aussi repris dans le droit d'emprunter des chefs-d'œuvre. Hein. Allez, on va dire que Mozart est d'accord, c'est ça?
Oui.
Laurent, savez-vous que sur RDC, on joue dans l'émission Donnez-nous vos notes, et on joue avec une question que je vais poser maintenant, qui a trait à l'émission et plus particulièrement à l'invité. Donc depuis le début, on parle du parcours de Laurent Jacquier en ce 22 janvier 2026 dans de nouvelles notes sur RDC 93.4 et 92.5 pour Saintes et sa région. Et puis on a découvert que Laurent, il avait commencé par un instrument. Alors voilà la question du jour. Quel est le premier instrument dont Laurent Jacquier, invité de ce jour dans Donnez nos notes, a joué? Quel est le premier instrument dont Laurent a joué? Et nous l'a dit tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs reprises, et on a entendu plusieurs extraits qui peuvent nous mettre sur la voie. Laurent, vous n'avez pas le droit d'aider, on est bien d'accord, hein?
On est d'accord, je ne dis rien.
Qui gagne? Le premier ou la première qui donne la bonne réponse? Quel est l'instrument, le premier en tout cas, dont Laurent Jacquier a joué? Et pour gagner, il faut faire le numéro suivant, c'est le 05 45 95 09 87. Je répète, c'est le 05 45 95 09 87. C'est le standard de RDC. Et Jean-Marc attend vos appels. Quel est le premier instrument dont Laurent Jacquier a joué? Jouez, attention, on se précipite, c'est partir de maintenant, le top départ est donné. Laurent, on revient à votre parcours musical, on parle de Stravinsky. Qu'est-ce que vous nous dites de cet homme-là?
Alors, Stravinsky, c'est un compositeur qui a eu une très grosse influence, je pense, sur moi. Ça a été vraiment la première fois que j'ai écouté Le Sacre du Printemps, par exemple. Ça a été carrément un choc, moi j'avais jamais entendu ça du tout comme musique avant.
Un choc, pourquoi?
Il y a deux choses vraiment que j'aime beaucoup chez Stravinsky, c'est le côté rythmique et le côté de l'orchestration. Il y a une manière de traiter l'orchestre, d'utiliser les différents timbres des instruments qui est vraiment incroyable. Et il y a un côté rythmique qui n'est pas si éloigné que ça du rock d'une certaine manière. En tout cas dans l'extrait là, que je vous propose, il y a un côté au niveau de l'énergie, de la pulsation, qui est pas si éloigné que ça du rock.
Sans dire que tout est dans tout, on a quand même une forme de continuité, de filiation, je veux dire, finalement, qui peut s'installer, hein, c'est ça?
Oui, je ne sais pas si Stravinsky serait très heureux que je dise que c'est pas si éloigné du rock, mais pourquoi ouais. pas.
Alors il y a Stravinsky qui parle lui-même de l'œuvre qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre, c'est quoi? C'est un extrait du Sacre du Printemps. Et
tout
c'est
à fait. La ronde des adolescentes.
Alors, voilà ce qu'il dit. Lui-même, hein, Stravinsky. J'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen, les vieux sages assis en cercle, observant la danse à la mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. Oh, c'est terrible, non, ça?
Oui, c'est effectivement.
C'est un mensonge, certes, il y a moindre mal, mais quand même. Hein. Bon, pourtant, voici, allez, je vais le dire, une des œuvres les plus importantes du XXe siècle, et peut-être de l'histoire des arts. On peut dire qu'elle est marquante de l'entrée dans la modernité pour la musique et pour la danse, parce que les deux sont associés. On va d'abord déjà avoir une preuve tout à l'heure en entendant peut-être les pas des danseurs, je crois.
Oui, c'est ça, ce qui est très intéressant dans l'extrait là, c'est qu'on entend les danseurs qui sautent sur le sol, parce que ce passage-là, donc la ronde des adolescentes, c'est des adolescentes qui piétinent, enfin dans l'argument, les adolescentes piétinent le sol pour le rendre fertile. Et la chorégraphie, ce qui s'était jamais fait, je pense, à l'époque, puisqu'on était en 1913, où c'était plutôt la danse classique avec les pointes, etc. Et là, on a
du gros son.
Voilà, du gros son même dans la danse, parce qu'on a des groupes de danseuses qui tournent en rond et qui sautent par terre, ouais. qui piétinent le sol. Et on va l'entendre dans l'enregistrement.
C'était ô combien inhabituel, hein, ce qui fait que à la création de cette œuvre à Paris, il y a eu un scandale, autant provoqué par la chorégraphie tribale de Nijinsky, puisque c'est lui qui l'avait faite, que c'est par la musique fracassante, en tout cas jugée comme telle, de Stravinsky. Et c'était ô combien en rupture avec les habitudes ou les traditions classiques et romantiques de l'époque et qui avaient les ferveurs du public. On écoute ?
On écoute.
Allez, on tape des pieds, c'est maintenant. Thank you. sont frappés, qui frappent le sol, effectivement. Et c'est comme un instrument supplémentaire, finalement. Une percussion supplémentaire, non ?
Ben, là, oui, dans cet extrait-là, on a vraiment l'impression que ça rajoute à la musique des percussions. Pourtant, il y a déjà suffisamment de percussions dans l'orchestre, mais il y en a en plus avec un timbre très différent, ouais. Puisque c'est juste les pieds sur le qui frappent sur le sol.
Et qu'est-ce que ça marque ? Vous disiez, c'est pour rendre le sol fertile, hein, c'est ça ?
Oui.
Moi, je vois un lien avec, je ne sais pas si vous connaissez, les Gilles de Binche. Les Gilles de Binche, c'est ceux qui ont ces grands chapeaux d'autruche et qui tapent le sol, justement, pour le rendre fertile au moment de la fin de l'hiver, au moment du carnaval de Binche. C'est un souvenir de choses que j'ai pu voir et entendre, et finalement, c'est lié. Dans cette œuvre de Stravinsky, on entend plusieurs étapes. On entend l'adoration de la terre, on entend le sacrifice, et puis... ici, on a le moment de l'adoration de la terre, finalement. Ça fait peur un peu, non, quand même, hein, non ?
Si on lit l'argument, oui, il y a un côté qui peut faire un peu peur, qui est un peu sombre. Mais moi, je ne l'ai jamais senti comme ça.
Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que c'est avec votre passé de hard rocker ?
Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'en plus, le sacre du printemps, ça se termine par la danse sacrale, enfin la danse de l'élu, qui va être sacrifiée au dieu du printemps. Bon, c'est pas...
Sacrifié pour la bonne cause. Hein. Oui, est-ce que le sacrifice, est-ce qu'il faut le sacrifice quand même ? Enfin bon, on pourrait philosopher là-dessus. Prenez un crayon, vous avez 2 heures. Mais non, on les a pas. En tout cas, ce qui est intéressant et même, je vais dire, assez sublime, c'est cette association entre musique et danse. Cette conjugaison, cette osmose, cette symbiose entre deux domaines artistiques. C'est chouette de faire se rencontrer les domaines artistiques, non ?
Tout à fait. Bah, ouais. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible
dans votre travail ?
Dans mon travail, dans les projets sur lesquels je travaille.
Donc avec la danse, par exemple, même si avec d'autres domaines ?
Alors oui, j'ai travaillé avec la danse pendant un certain temps, enfin c'était il y a quelques temps déjà, une vingtaine d'années, mais j'ai travaillé avec une compagnie
on va y revenir tout à l'heure.
Nous y reviendrons.
Ouais, ouais. Allez, on va continuer le parcours de qui ? De Laurent Jacquier sur RDC. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. De Stravinsky, nous voilà à Ravel. Que nous dire de ce Maurice, s'il vous plaît, Laurent ?
Alors, Maurice Ravel, c'est un compositeur à peu près de la même époque que Stravinsky.
Oui.
Et alors, qui est très connu, je ne vous le redirai pas, mais qui est quand même très connu pour le Boléro, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais qui a fait énormément d'autres choses. Et Ravel, c'est, entre autres... un excellent compositeur et un orchestrateur hors pair. Et c'est ce côté-là que j'ai voulu mettre en avant dans l'extrait que j'ai choisi. C'est un extrait qui est issu de L'Enfant et les Sortilèges, et ça s'appelle Musique d'insectes et de rainettes.
Tiens.
Et ce que je trouve assez incroyable, c'est la manière, c'est comme un tableau qui dépeindrait
donc
un paysage.
On est le lien musique-peinture, peut-être.
Voilà. Mais du coup, il n'y a pas d'image, c'est juste avec la musique qu'il arrive à représenter une scène, un jardin, la tombée de la nuit, avec un étang, des rainettes, des oiseaux.
Ça y est, c'est l'histoire, on y est. Vous aimez les histoires, Laurent ?
Ben, j'aime bien.
Allez, je vous raconte un peu. Imaginons avec Maurice Ravel à la composition, et sur un texte de Colette, quand même. Ouais. Une pièce d'une maison de campagne avec un plafond très bas qui donne sur un jardin. C'est peut-être une maison normande ou de montagne vers Saint-Gervais, qui sait. En tout cas, elle est très ancienne, elle est démodée. Dans la pièce, il y a un enfant, mais il y a aussi de grands fauteuils avec des housses, une horloge en bois à cadran fleuri, une tenture à petits personnages qui représente une bergerie, une cage ronde à écureuil qui est pendue près de la fenêtre, pas l'écureuil, hein, la cage, hein, une grande cheminée avec une hotte dans laquelle brûle encore pour quelque temps un reste de feu tout à fait paisible, une bouilloire qui ronronne, le chat qui ronronne aussi. C'est l'après-midi, un enfant de 6 ou 7 ans est assis devant un devoir commencé. Il est en pleine crise de paresse. Il mord son porte-plume, il se gratte la tête et il chantonne à mi-voix « J'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de manger des gâteaux, j'ai envie de tirer la queue du chat, de couper celle de l'écureuil, j'ai envie de gronder tout le monde, j'ai envie de mettre maman en pénitence. » Aïe, 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 mais il est pas sérieux ce petit-là. Hein, ça me fait penser quelque part à un poème de Prévert Lecancre. Et même quelques mots d'une chanson de Claude François. Oui, Clo-Clo, vous voyez, c'est « Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur ». C'est joli aussi. Laurent, bref, l'enfant, il refuse de faire ses devoirs et il va se placer plein de choses. Et finalement, peut-être va-t-il être remis sur le droit chemin grâce à la musique de Ravel et grâce au texte de Colette. C'est maintenant ?
C'est maintenant.
Comment s'appelle le titre ?
Rainette ? Ça s'appelle « Musique d'insectes et de rainettes ».
Ah, super. C'est maintenant. Alors l'enfant, il refuse de faire ses devoirs, vous l'avez compris. Il entre ensuite dans une colère complètement destructrice. Il est seul au monde, il va connaître un univers dans lequel les objets et les animaux, et puis tout ce que je citais tout à l'heure, vont prendre vie. Et il va subir la révolte de tous ces personnages, en tout cas de ce qui va devenir des personnages. Toutes ces créatures se jettent sur lui. Et avant de s'évanouir, il va soigner l'écureuil baissé. Et finalement, les créatures vont lui pardonner et le ramener à sa maman, en l'appelant la maman en cœur avec lui. Ça finit bien alors ?
Oui, l'histoire finit bien.
Ouais. Et dans L'enfant et les sortilèges, Colette dépeint un véritable Éden animalier, et Ravel le met en musique, hein, c'est ça ? Il y a un jardin palpitant d'ailes, rutilant d'écureuils, et c'est un paradis, allez, je vais dire, de tendresse et de joie animale. C'est ça ?
C'est ça.
Et finalement, qu'est-ce que ça prouve ? Il y a une morale, tiens. Bien mal acquis ne profite jamais, c'est-à-dire que tu peux te mettre en colère, mais finalement, si au fond de toi-même, tu es quelqu'un de bien, on oubliera que le bien mal acquis ne profite jamais et tu reviendras sur le droit chemin. Ça pourrait être ça, la morale ?
Voilà, c'est à peu près la morale de L'enfant et sortilège, tout à fait.
Allez, on change d'époque, on change de sujet, on change de personne. On parle de Mater Dolorosa, l'homme traversé. Qu'est-ce que ceci, s'il vous plaît, Laurent ?
Alors, L'homme traversé, c'est un spectacle sur lequel j'ai travaillé il y a quelques temps. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. C'est le projet d'un chanteur qui s'appelle Lionel Damey, avec qui j'ai travaillé très longtemps, et d'ailleurs je continue à travailler de temps en temps avec lui. Ce projet-là, c'était... Donc Lionel Damey est un chanteur et auteur qui a été révélation du Printemps de Bourges dans les années... 80, début des années 90.
De quel coin de France il est, vous savez ?
Il est corse d'origine et il est de Grenoble.
C'est peut-être là-bas où vous êtes croisés.
En fait, on s'est rencontrés à Grenoble et j'ai travaillé pour lui. Mmh. Et donc ce spectacle-là, L'homme traversé, c'est pas très gai non plus. C'était un hommage aux écrivains qui ont été morts du sida. Mmh.
L'homme traversé, traversé par les mots, traversé par le temps, mais traversé par la maladie aussi, voilà, c'est ça ?
C'est ça, une signification. Ouais. Et ce spectacle-là, on l'a fait, alors ça c'était une très grande chance, on a pu le faire avec les musiciens du Louvre, enfin en tout cas les cordes des musiciens du Louvre, l'orchestre qui était dirigé à l'époque par Minkowski.
Marc Minkowski, oui, qui a travaillé à Bordeaux, je crois.
Oui.
Et puis qu'il y a aussi un autre ensemble, j'ai oublié le nom, mais Les Musiciens du Louvre est un des ensembles célèbres.
Voilà, c'est un des ensembles de Marc Minkowski.
Mm-hmm. Ok. Et alors, quand vous avez travaillé, vous avez réécrit, vous avez adapté, vous avez orchestré
Là, j'ai tout fait. Enfin, j'ai composé la musique. Donc, c'est Lionel Damey, le chanteur, qui a composé, qui a écrit les textes. Et moi, j'ai composé toute la musique. Et j'ai fait tous les arrangements pour les cordes. Il y a aussi, bien évidemment, du piano avec Agnès Jacquier.
Ah, c'est, je crois qu'elle a été invitée à cette émission en mois de décembre dernier. Voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez alors?
Oui, tout à fait, que je connais très bien.
Allez, je vais oser lui faire, en présence de son mari qui est en face de moi, je vais aussi oser envoyer une bise à Agnès en lui souhaitant une bonne année, bien sûr.
Et donc oui, ce spectacle-là était avec orchestre à cordes, piano, chant, et il y avait de la danse aussi, puisqu'il y avait une chorégraphie avec une chorégraphe et danseuse qui est soliste sur le spectacle, ouais, qui s'appelle Sylvie Guillermin.
Mm-hmm. Alors moi je vais en dire que c'est un peu comme un opéra finalement.
Oui, il y avait un côté un peu comme ça, parce qu'il y avait même, il y avait quand même un peu de mise en scène, de la chorégraphie, ouais, de la musique, du chant, et ça raconte une histoire du début à la fin.
Voilà, il y avait un... L'homme traversé, c'est le titre. Hein. C'est, moi, je pense que c'est un chant d'amour, finalement.
Bah oui, mais j'aime bien cette définition.
Ouais, comme toujours chez Damei, les mots font l'amour, tiens. Je vais dire, ils s'engendrent, ils se séparent, ils s'accouplent, ils se heurtent, et ils s'éloignent, ils se retrouvent en une communion mutuelle et incessante. Moi, je crois que c'est un peu ça, une définition qui pourrait aller avec les textes, en tout cas, et avec la musique que vous avez composée. Et puis, même s'ils ne sont plus les seuls à jouer dans ce spectacle, puisqu'il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que la musique, vous le disiez, il y a de la mise en scène avec Chantal Morel et de la danse avec Sylvie Guillermin. Bref, au total, on a quelque chose de très, très dynamique, tiens, je vais dire, très présent, très prenant. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant. La danseuse est un peu l'ombre et le double du chanteur. À la fois un gardien fidèle et obscur démon, tour à tour complice et rebelle, je t'aime moi non plus. On retrouve ça aussi quelque part, les compositions donc de Laurent Jacquier. La presse en parle comme exaltant les contrastes d'une poésie aux ailes qui bruissent. C'est joli comme définition. Avec la complicité de l'orchestre de chambre de Grenoble, allié au piano d'Agnès Fesquet, elle confère à cette création sa profonde originalité. Laurent, Agnès, donc Agnès Fesquet, vous la connaissez, puisque maintenant, peut-être qu'elle s'appelle Agnès Jacquier, c'est ça?
C'est ça.
Mater Dolorosa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la douleur de la mère, c'est ça?
Oui.
Avec une signification chrétienne, celle de Marie face à la crucifixion de son fils. Au-delà, par la suite, avec la souffrance de toute mère confrontée au mal de son enfant, quelle que soit la source ou la cause de ce mal, c'est aussi de ça que ça parle, hein, cette chanson. Laurent, comment vous pouvez traduire de telles émotions en musique? C'est une gamme, c'est tel instrument, c'est la rencontre d'instruments. Comment des notes peuvent-elles parler, si j'ose m'exprimer ainsi?
Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question.
Oui, c'est pour ça que je vous la pose.
Je vous remercie beaucoup. En règle générale, enfin surtout quand je travaille avec Lionel Damy, enfin c'est pour ça que je travaille avec lui, mais je trouve que c'est quelqu'un qui écrit vraiment très très bien. Et à chaque fois que je lis ses textes, j'ai toujours une image ou une émotion, quelque chose qui me vient et que j'arrive à traduire assez...
Donc vous partez du texte?
Je pars toujours du texte.
Mmh, dans ce cas-là, en tout cas.
Dans ce cas-là, mmh. C'est très très rare que ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois d'écrire une chanson sans avoir le texte d'abord. Mais je pars toujours du texte et c'est le texte qui... Déjà, c'est le texte qui va me donner le rythme, c'est le texte qui va me donner l'intention. Et après, moi, je fais mon interprétation du texte par rapport à la musique.
On écoute le résultat?
On écoute.
Un petit bout du résultat, apparemment, on ne peut pas tout écouter. Hein.
Donc c'est très long, L'Homme traversé.
Enfin, Mater Dolorosa, L'Homme traversé, Lionel Damei, Laurent Jacquier et collègues.
Mon envol pétrifié par ta faute tant de fois. Je ne pouvais dévier, écrasé sous le poids de prétendus péchés perpétrés avant moi. Toutes nos vies cachées par ces dieux qui foudroient. Des flèches dégauchées à chacun de mes choix m'ont appris à tricher.
Ah oui, ça parle, moi, je trouve. C'est prenant, tout de suite. Ça prend aux tripes, hein, vraiment. À la fois ce qui est dit, la manière de, dont c'est dit, mais la musique de, qui est assénée, tiens, je vais dire. C'est un moment particulièrement triste de l'œuvre, ça, évidemment.
Oui, c'est le final.
Ah oui, Matière Dolorosa. Allez, on change d'univers. Si je dis Michel Berger, Luc Plamondon, alors Laurent, vous avez 2 secondes pour me donner, en association avec ces deux noms-là, le titre d'une comédie musicale. C'est parti.
Starman.
Bravo, vous avez gagné. Et pourquoi on parle de Starmania maintenant dans cette émission ?
Alors, pourquoi on parle de Starmania ? Parce que j'ai eu l'occasion d'en faire une version pour orchestre symphonique.
Enfin, en alors, tout orchestre cas, symphonique, d'extrait. Ça veut dire toutes les familles d'instruments.
Donc, voilà, un orchestre symphonique.
Les cordes, les bois, exactement. Les cuivres, les percus, etc.
On a toutes les... Tout,
peut-être piano aussi, j'en sais rien, associé.
Toutes les familles. Il y avait même du piano. Là. Toutes ouais. les familles qui étaient... qui sont associées. Donc, effectivement, on a les bois, les cuivres, les cordes, les percussions. Et dans ce cas-là, j'avais même des saxophones et du piano.
Donc des instruments invités dans
voilà, les instruments qui étaient invités. Ouais. Et donc j'ai fait ça, on m'a proposé de faire ça dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Euroorchestries. Et c'est un festival que j'aime beaucoup pour une raison, c'est qu'il défend vraiment les valeurs musicales qui me sont chères, c'est-à-dire l'objectif de ce festival, c'est la fraternité entre les peuples par la rencontre musicale d'orchestres de jeunes. Donc on avait des orchestres qui venaient de... 9 pays différents, je crois. Du monde entier, il y avait un orchestre de Macao, un orchestre brésilien, enfin, il y avait de Lituanie, de Hongrie, enfin, j'ai plus exactement les pays, mais il y avait 9 ou 10 pays représentés dans l'orchestre. Et on a joué ensemble, on les a tous mélangés, et ensemble, on a joué quelques extraits de comédies musicales, dont Starmania. Voilà. Et j'ai eu le privilège énorme de, et d'une, faire l'orchestration, et de les diriger moi-même.
Donc j'avais des répétitions avant et puis...
Donc avec des répétitions, et ça c'est vraiment une expérience incroyable de diriger, d'avoir tous ces jeunes de tous les pays en face, et c'était une centaine je crois dans l'orchestre, et d'avoir la chance de travailler, de faire de la musique, partager la musique avec eux tous les matins pour faire après un grand concert, ça a été une expérience absolument formidable.
Puis il y avait une école de chant locale je crois qui était associée.
Donc toujours dans le dans l'univers du partage, il y avait une école de chant qui s'appelle l'ECMA, qui est basée à Pont, je crois. Il y avait une vingtaine de chanteurs de cette école, dirigée par Michael Merle, qui était avec nous, et ça a été vraiment une rencontre extraordinaire.
Alors les Euroorchestries, c'est une organisation qui a été créée en Charente, il faut quand même le savoir, dans le secteur de Blanzac-Porcheresse, qu'on appelle maintenant Coteau du Blanzacais, et c'est entre autres Marcel Corneloup, musicien, compositeur et pédagogue de renom, qui a contribué à leur lancement, puis à leur développement. C'est pour moi l'occasion de saluer la mémoire de Maurice Corneloup et de saluer aussi son épouse que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer il y a quelques années déjà. Je veux saluer aussi le souvenir de Lisiane Serpeau, alors directrice de l'école départementale de musique, ça s'appelait à l'époque l'Association départementale pour le développement de la musique, et c'est celle qui avait contribué à développer les Euroorchestries. Et puis il y a eu migration en Charente-Maritime, du côté de Jonzac, et puis de Saint-Germain-Lusignan plus précisément, et de c'est Pont, ça. Vous le disiez, voilà. Et maintenant, les Euroorchestries, c'est en Charente-Maritime, mais c'est aussi au Brésil, c'est aussi en Espagne, il y a plusieurs festivals, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est dans la Vienne, bref, on est dans Charente-Maritime, dans la région, en France et au-delà. Et donc le mot Euroorchestrie, est-ce qu'il est toujours adopté ? J'en sais rien. C'est peut-être monde orchestrie maintenant, quand on passe au Brésil, etc. Enfin, j'en sais rien, c'est pas à moi que répond, bien sûr, la réponse. Cependant, comme vous, Laurent, je salue l'objectif de rassemblement autour de la musique et par la musique. Reste à savoir, j'y reviens, ça sera toujours ma question. Est-ce que la musique adoucit toujours les mœurs ? Ou contribuer à les adoucir, j'en sais rien. C'est peut-être l'usage de la musique qui fait
oui,
que...
Oui, peut-être
c'est
l'usage. En tout cas, quand pour avoir l'occasion de faire beaucoup de festivals des Euroorchestries, là, je pense qu'on peut se dire que oui, la musique adoucit les mœurs.
Alors, je crois que vous êtes vice-président des Euroorchestries,
oui,
c'est ça ?
Oui, je suis vice-président des Euroorchestries.
Un poste que je connais, j'ose dire, pour l'avoir occupé il y a quelques temps, pendant quelques temps. Allez, on revient à Starmania.
Tout d'abord, revenons à Starmania.
Pourquoi avoir retenu cette œuvre ? Donc c'était une demande, vous l'avez dit, c'était une commande.
L'idée, la proposition était de faire une partie du concert de clôture sur les comédies musicales. Donc après, on en a discuté, on a fait une sélection avec Michael Merle et puis les gens de l'ECMA.
Donc Starmania.
Mais bon, Starmania est quand même dans les comédies musicales françaises, c'est quand même un incontournable.
Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où l'Occident est unifié en un seul État. Beaucoup de gens rêvent d'une façon ou d'une autre de devenir star. Et puis Crystal, c'est une animatrice vedette de la télé. Elle présente Starmania qui promet à des candidats de devenir star d'un soir. Il y a quelque temps, il y avait Reine d'un jour. C'est peut-être un écho à ça. À l'approche de l'élection présidentielle, la capitale de l'Occident est terrorisée par une bande qui s'appelle les Étoiles Noires. Et le chef, c'est Johnny Rockford, qui est sous l'emprise de Sadia, une étudiante agitatrice issue de la haute société. En fait, c'est un travesti. Enfin, bon, c'est des choses inavouables. Hein. Dans les souterrains, il y a Marie-Jeanne, qui est la serveuse d'un café, qui écoute des bulletins d'information. Et ceux qui vont prôner une manière de penser et qui sont sous-tendus par un présentateur de journal télévisé, ce qui n'est pas du tout le cas des animateurs de RDC, je tiens à le signaler quand même. Hein. Elle assiste aussi, cette serveuse, aux préparations d'attentats que projettent Sadia et Johnny. Et au-dessus du café souterrain s'élève la tour dorée du milliardaire et ancien militaire 0 janvier. Celui-ci annonce sa candidature à l'élection. Peut-être que ça a des liens avec des histoires réelles, contemporaines, j'en sais rien. Et puis il y a Ziggy, un jeune disquaire homosexuel dont Marie-Jeanne est amoureuse, qui rêve de passer à Starmania. Bon, allez, au final, ça va mal se passer, non ? Ça va exploser complètement.
Ça va se passer, ah, oui. Ouais. C'est un peu comme souvent à l'opéra, quoi, ça finit pas toujours très bien.
Ouais. Le personnage de Crystal, qui chante Monopolis et qui est joué à l'origine par France Gall, est inspiré d'une riche héritière, une vraie histoire, qui, enlevée, fut gagnée par le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle a épousé la cause de ses ravisseurs. Laurent, s'il vous plaît, permettez-moi un petit coucou, c'est un coucou pour Sam Ferrando. Je pense que vous l'avez croisé, j'en suis sûr même, hein, parce que vous avez donc aussi donné une orchestration d'une autre œuvre, c'est Naya, écrite par mon ami Jean-Noël Godard, qui a été invité de cette émission-là, et puis Sam Ferrando a été invité aussi, et là, c'était avec une œuvre qui s'appelle Naya, que vous avez orchestrée, c'est ça, pour l'Orchestre Symphonique ?
Oui, c'est une œuvre, j'ai eu la chance de travailler avec eux deux, et ouais. Alexis Charrier aussi à la guitare. Ouais. Sur Naya, il y a eu deux Naya, il y a Naya 1, que j'ai orchestré pour Orchestre Symphonique, et Naya 2, dont j'ai fait des arrangements quatuor à cordes.
On est vraiment dans deux univers, mais pourtant c'est intéressant parce qu'on part de la même œuvre, c'est ça ?
Oui.
Mm-hmm. Donnez-nous vos notes, c'est une émission donc dans laquelle Sam Ferrando est passé, Jean-Noël Godard aussi, et puis je voudrais dire, Sam, j'ai un message pour vous, un message pour toi. Ton talent, Sam, que j'ai découvert dans Naya, œuvre de Jean-Noël Godard, sur un arrangement pour orchestre symphonique d'un certain Laurent Jacquier, t'aurait permis de magnifiquement tenir le rôle de Spotlight, puisqu'il t'avait été proposé dans Starmania. On écoute Starmania ?
Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire.
Ah
moi,
oui,
j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Jean-Noël et Sam.
Ah ouais, c'est deux amoureux de la musique. Hein. Et avec vous, ça fait 3-4 avec moi. C'est maintenant.
J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. M'étendre sur l'asphalte. Et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est du cinéma qui me fait mon cinéma.
Alors, pour orchestrer ça, vous êtes inspiré de choses existantes ou vous êtes parti de zéro?
Alors de choses existantes non, parce que, enfin en tout cas je ne connais pas du tout de version de Starmania pour orchestre symphonique.
Ouais.
Les versions c'est plutôt ce qu'on appelle musique actuelle amplifiée, donc il y a des claviers, guitare électrique, basse et batterie. Donc la difficulté là-dedans c'est qu'il a fallu évidemment créer des parties pour tous les instruments parce qu'elles n'existent pas. Et c'est encore une question, c'est encore une question d'interprétation. Comment on sent cette musique-là? Qu'est-ce qu'on veut exprimer?
Et aussi peut-être en fonction de ce que peuvent jouer les instrumentistes.
Il y a aussi ça. Alors c'est moins vrai. C'est très vrai quand on travaille pour des orchestres d'élèves de conservatoire. Mmh. C'est moins vrai pour les orchestres parce que les orchestres qui viennent sont quand même de bon niveau.
De bon niveau, oui.
Voire très bon niveau pendant la majorité. Donc. Et je, quand je travaille pour les orchestres, je me pose moins la question de est-ce qu'ils vont être capables de faire. Bon, je fais pas non plus des choses trop difficiles parce qu'il y a peu de répétitions, mais, oui, mais ça rentre moins
une en semaine, une grosse semaine.
Oui, voilà, une grosse semaine de répétition tous les jours. Mais je me pose moins la question pour eux.
Allez, on change de sujet en ayant salué tous ces instrumentistes et chanteurs qui ont, je crois, non, je suis sûr, réussi quelque chose de très beau aussi grâce à vous, Laurent. Bravo, merci. On parle de l'alphoméga, encore un mot que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que l'alphoméga?
Alors, ben, l'alphoméga, c'est l'alpha et l'oméga un peu condensés. Et c'est une comédie musicale. Enfin, comme vous l'avez compris, du coup, moi, je suis assez amateur de comédie musicale. Et c'est celle-là, c'est une comédie musicale qu'on a composée avec vraiment un ami d'enfance. On se connaît depuis le CE1. Hein. Et c'était d'ailleurs le batteur du fameux groupe de rock TTC Fly dont je vous parlais tout à l'heure.
On le salue et on salue les collègues, voilà. Bien sûr. Alors, de quoi ça parle?
Alors, de quoi ça parle? Bah, c'est un peu dans le même genre de Starmania. Enfin, ça se passe en 2100. Il y a un dictateur qui a pris le contrôle de l'univers, etc. Et il y a un groupe de résistants qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme dans Astérix.
Eh ben oui.
voilà. Et puis, bon, évidemment, comme dans toute comédie musicale, il y a des histoires d'amour. Et donc l'extrait que je vous propose, c'est justement une chanson un peu sur la jalousie de des héroïnes qui sont amoureuses du héros.
Et ça s'appelle comment, la chanson?
La chanson s'appelle Peur.
Allez, là, on va jouer à se faire peur. Voilà. C'est maintenant?
Oui, mais c'est une jolie balade en fait.
Oui. C'était quel est l'instrument, le premier instrument dont Laurent Jacquier, notre invité du jour, a joué? Qui de mieux placé pour donner la réponse que Laurent Jacquier lui-même? Donc la réponse c'est...
Donc la réponse c'est la guitare.
La guitare, le gros son dont on parlait en début d'émission et puis voilà. Tous les sons qui s'en sont suivis. Est-ce qu'on a un gagnant-gagnant? Je me tourne vers Jean-Marc. Je pense que oui. Et je vais demander à Laurent de donner le prénom de gagnant, du gagnant, de la gagnante et peut-être la commune où il ou elle réside.
Eh bien, nous avons une gagnante. Il s'agit de Marie-Claude de Saint-Junien.
Marie-Claude de Saint-Junien. Saint-Junien, là-bas loin, après la Charente, mais très près de nous, grâce à RDC. Bravo donc à Marie-Claude de Saint-Junien. Elle a gagné quoi? Un CD et un DVD, ainsi qu'une invitation à participer à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC. Merci et bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont tenté leur chance. Ils gagneront ou elles gagneront sûrement dans une prochaine émission. Laurent, une symphonie urbaine, qu'est-ce que c'est?
Alors, une symphonie urbaine, ben ça c'est une pièce que j'ai composée pour ce coup-ci pour orchestre d'harmonie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre d'harmonie ?
Bravo, vous faites des questions. Vous êtes un très bon animateur d'émission, Laurent.
C'est un orchestre qui a uniquement des instruments à vent et à percussion. Donc, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de violon, de violoncelle. Par contre, il y a des saxophones, il y a tous les instruments à vent et les percussions.
Alors, pourquoi on crée quelque chose pour un orchestre d'harmonie ?
Alors, j'ai créé ça pour un orchestre d'harmonie parce que c'était, à l'origine, j'ai fait ça pour un concours de composition pour orchestre d'harmonie qui s'appelle le concours coup de vent.
Ah, donc instrument à vent.
Voilà, donc du coup, voilà, c'était un concours pour instrument à vent, enfin pour orchestre d'harmonie. Et cette pièce-là était demi-finaliste du concours. Voilà. Et après, j'ai eu l'occasion de la faire jouer plusieurs fois. Elle a été recréée ensuite aux États-Unis par un ami chef d'orchestre de Denver, par d'autres amis chefs d'orchestre en France.
Alors, c'est
alors pourquoi urbaine ?
Oui, voilà. Allez-y.
Pourquoi urbaine ? En fait, chaque mouvement représente en quelque sorte certains moments de la vie urbaine. Le premier mouvement, ça s'appelle « Dans les couloirs du métro parisien ». Alors, pour une bonne raison, c'est que moi, je suis parfaitement claustrophobe dans le métro. Et ça, c'est une des rares musiques autobiographiques. Ça décrit quand j'allais au Conservatoire de Paris faire mes études et que je prenais le métro. Voilà. Le deuxième mouvement s'appelle « Méditation ». Donc, c'est plutôt le moment un peu méditatif dans un jardin, de relaxation. Et le troisième mouvement s'appelle « Rêve parti », donc qui fait référence plutôt aux soirées, à la fête, etc.
Avec la musique très fort, etc.
Voilà,
on peut être très près des enceintes et des bœufs.
Exactement.
On n'est pas obligé de le faire, hein, parce que ce n'est pas forcément très bon pour la santé et pour les oreilles,
non.
En tout cas. Et bien, ce que vous nous proposez d'écouter, ça fait partie de quelle partie ?
Alors, ce que je vous propose d'écouter, ça fait partie du deuxième mouvement, qui s'appelle Méditation. Voilà, c'est la fin du deuxième mouvement, avec une grande phrase de cuivre que vous allez entendre.
Laurent, méditons ensemble.
Méditons.
Avec les auditrices et les auditeurs. Allons-y. C'est maintenant. J'avais pas fini de méditer. Merci. Donc j'ai pris quelques secondes supplémentaires. On prend de la hauteur ?
Eh bien, prenons de la hauteur. Alors,
avec,
vas-y.
Avec un titre qui s'appelle ?
Alors, qui s'appelle « Sur le fil des 4000 ».
Ah tiens, sur le fil... Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, le fil des 4000, c'est une musique d'un documentaire. En fait, le fil des 4000, c'est le titre du documentaire qui retrace le parcours de l'alpiniste Patrick Béraud. Quand il avait le projet d'enchaîner tous les sommets, à plus de 4000 mètres d'altitude.
Et puis ça s'est mal fini.
Et ça s'est mal fini. Il a glissé sur un passage pourtant normalement très facile pour lui. Il n'était pas encordé.
Voilà, j'ai dit que toutes les sécurités n'étaient pas prises. En tout cas, quand il a presse de ce documentaire, les prises de vue de l'arête des Grandes Jorasses à la Dent du Géant ou du sommet de l'Aiguille Verte sont exceptionnelles. À la mesure de ces images sublimes, nous avons apprécié la musique originale, discrète et émouvante, composée par Laurent Jacquier. Et la conclusion, dans cet article en tout cas, c'est un film à voir absolument. Je vais oser dire aussi à entendre. On écoute maintenant ?
On écoute.
On a plusieurs matériaux sonores qui me semblent intéressants. Alors qu'est-ce qu'on entend là? Une voix.
On entend plusieurs. On entend une voix.
Retravaillée ou telle quelle?
Et alors la voix est retravaillée. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on m'a souvent posé la question qui était cette chanteuse. Et alors on parlait de sample tout à l'heure. Bah justement, cette voix-là, c'est un sample. Je ne sais absolument pas qui c'est qui chante. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur des CD qu'on utilise avec des samples justement pour écrire de la musique. Donc j'ai fait un montage avec plusieurs phrases qui sont samplées. Je sais même pas. Je crois que c'était un CD avec des voix indiennes. Voilà, c'est des samples de voix indiennes que j'ai assemblées pour donner la musique que j'avais besoin. Et c'est accompagné au piano. Ma part Agnès Jacquier.
Encore elle. Quel travail pour elle. Vous, c'est incroyable.
Au violoncelle par un ami Pascal Jessy qui était au musicien du Louvre. Et le tout est relié aussi par des sons de synthé qui sont programmés.
Et donc ça illustre le périple, en tout cas une partie du périple. Voilà, parce qu'il y avait 82 sommets qui étaient prévus. Et ça s'est arrêté après le 64e.
Voilà. C'est le thème qui est entre autres dans le générique du film.
Donc plusieurs matériaux sonores qui sont. Tiens, je vais dire assembler, arranger, orchestrer, réorchestrer. Voilà. Et puis, il y a donc encore un piano dont vous parlez avec la pianiste qu'on commence à bien connaître. Est-ce que cette pianiste, elle est aussi dans un trio récemment constitué?
Eh bien, oui, c'est
peut-être qu'elle ne joue pas au piano à ce moment-là. Ah,
mais bon, elle n'est pas au piano. La pianiste est à la batterie.
Ah, elle est batteuse alors.
Voilà.
Et donc, il y a Laurent Jacquier au guitare,
et
peut-être.
Et donc, voilà. Donc, je suis revenu à mon adolescence. Du coup, j'ai repris la guitare électrique. Et la chanteuse de ce trio, c'est Pauline Josselin.
Pauline Josselin, qui a été aussi l'invitée de l'émission avec un ensemble instrumental avec lequel elle partage de la musique ancienne. Oui,
tout à fait. Oui, donc nous avons monté depuis peu de temps d'ailleurs un trio de rock qui n'a toujours pas de nom.
On revient au rock. On a commencé l'émission avec le rock et nous revoici au rock.
Je reviens à
le
mes
cycle,
origines.
La boucle est bouclée. Alors Pauline, quand même, moi je veux dire, hein, c'est une mezzo, c'est a priori quelqu'un qui chante de la musique dite classique, mais qui accepte aussi de dépasser les frontières, puisqu'elle joue de la musique celtique, elle joue de la musique ancienne.
C'est quelqu'un pareil qui a une grande ouverture d'esprit, qui peut jouer ou chanter n'importe quel style de musique, en allant du celtique à la musique ancienne, à la musique
j'ai eu le plaisir de l'entendre
contemporaine ou le rock.
Dans des adaptations d'airs d'opéra ou d'opérette, et elle excellait également, évidemment. On va parler du paradoxe du serpent, c'est ça?
Oui.
Allez, qu'est-ce que c'est ça?
Alors ça, c'est une chanson de notre groupe, donc c'est sur un texte de Lionel Damilly.
Donc c'est une reprise?
Alors c'est une reprise, c'est moi qui écris la musique.
Ah, donc c'est une reprise de Laurent Jacquier par Laurent
Jacquier. Voilà, mais c'est une interprétation un peu plus rock. Et voilà, donc sur un texte de Lionel Damilly, et c'est par notre trio qui n'a toujours pas de nom, mais qui en aura un bientôt.
Ciné nominé.
Voilà.
On écoute.
On écoute.
Le paradoxe du serpent par le trio qui n'a pas de nom pour l'instant, c'est maintenant.
Il s'est offert à bonne couleur, à des gosiers peu ragoûtants. Fatigué, trop appelé, trop impliqué, et toujours muet, se remuer sous la huée, mais quelle corvée, mais quelle suée, ça va finir par nous le tuer, ce qu'il voudrait, c'est abdiquer.
Alors voilà, je crois, une œuvre, une chanson qui illustre la diversité et la complexité de la musique contemporaine. Je crois que cette œuvre fait partie d'un ensemble de compositions éclectiques, plus larges, et qui explore les thèmes de la mémoire, de l'émotion, de la recherche. Et on avait ici un extrait avec le paradoxe du serpent. Je voudrais, auditrice, auditeur, vous parler de Laurent Jacquier pendant qu'il n'écoute pas. Et vous dire que, pour moi, c'est un musicien et c'est aussi un chercheur. Un chercheur dans le monde de la musique. Il adore les mélanges, il adore les expériences acoustiques, les musiques actuelles, anciennes, d'ici, de là, d'ailleurs, et de partout. Et je crois que nous avons la preuve ce matin. Sa musique, à lui, elle est donc souvent teintée de rock ou de jazz. Mais on trouve aussi l'influence de Stravinsky et même de Bartok, des références à des genres plus traditionnels, plus habituels, plus conventionnels, comme la musique de chambre ou la musique symphonique. Auditeurs, auditrices, on connaissait Médecins sans frontières, on connaissait également Reporters sans frontières. Certains se rappellent peut-être de Jeux sans frontières. À partir d'aujourd'hui, avec Laurent Jacquier, grâce à lui, nous avons Musiciens sans frontières. Merci Laurent. Merci vraiment, parce que pour moi, reconnaître toutes les musiques et considérer la musique avec un grand M, c'est d'une importance capitale pour vous aussi, sans doute.
Tout à fait, et je vous remercie beaucoup de votre invitation.
Qu'on soit technicien de la musique, qu'on connaisse le solfège et la théorie ou pas, le plus important, c'est d'ouvrir ses oreilles, son cœur, son corps, son âme au son et au bruit du monde. Et je sais que grâce à vous, Laurent, on peut le faire, avec vous. Les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au monde. Ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir à lui. C'est pas de moi, je le regrette. C'est de Goethe. Je suis sûr que vous approuvez cette citation, évidemment, qui s'invite à s'inscrire dans le temps, dans son temps, en sachant d'où on vient. Bon, ben, auditrice, auditeur, Laurent, le temps est venu de nous séparer. Merci beaucoup du fond du cœur de votre venue, de votre participation, de votre implication totale dans Donnez-nous vos notes, Laurent.
Ben merci beaucoup à vous, c'était un plaisir.
Merci du fond du cœur encore une fois. Soyez sûr que vous serez le bienvenu dans quelques temps pour peut-être nous parler de la manière dont votre parcours musical. En tout cas, aujourd'hui, la continuité de vos collègues qui ont précédé, vous nous avez magnifiquement donné vos notes, offert vos notes. La prochaine émission sera consacrée à un duo, c'est le duo Cover de luxe. D'ici là, auditrices, auditeurs, si vous avez l'occasion d'écouter, de voir Laurent Jacquier et collègues, allez-y, foncez. Vous ne le regretterez pas. Jean-Marc, au revoir. Merci de tout faire pour que le podcast de l'émission soit le plus vite possible accessible sur le site de RDC. Tu peux envoyer le générique parce que tu sais, Jean-Marc, donne une nouvelle note sur RDC 93.4.92.5 pour aujourd'hui. C'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes, une note, des notes. Donnez-nous des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt. Pour moi, ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt. À bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.